Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h35, le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Emmanuel Duteil, en charge du service éco d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Vanessa Schneider, romancière et grand reporter au journal Le Monde. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Julien.
Et Anne Fulda qui va nous rejoindre dans quelques secondes, éditorialiste et journaliste au Figaro. Alors ce soir, on va évidemment largement revenir sur cette conférence de presse de Jean Castex cet après-midi aux côtés de ses ministres pour préciser les mesures annoncées hier par le président de la République. Les fêtes privées seront interdites partout en France, dans les salles polyvalentes. Le protocole sanitaire est renforcé dans tous les restaurants. Le télétravail, on l'a dit, devra être privilégié. Et puis le gouvernement a aussi précisé les exceptions pour sortir entre 21h et 6h du matin.
Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes ou tout autre établissement recevant du public, seront interdites. Dans tous les lieux où vous êtes assis, comme les cinémas, les stades, les cirques ou les salles de conférence, la règle d'un siège sur deux devra s'appliquer. Dans tous les lieux où l'on circule debout, comme les centres commerciaux et les supermarchés, les musées, les foires et salons, les zoos, le nombre de visiteurs sera limité sur la base d'une règle de 4 mètres carrés par personne.
Voilà, Jean Castex, tout à l'heure en conférence de presse. D'abord sur la forme, est-ce que l'exercice Charles Villeneuve, on commence par vous, est réussi ?
De Jean Castex ?
Oui, de Jean Castex. Ah.
Bah écoutez, je
Parce
dirais
que c'est qu'il... qu'on sort de temps. Hier, le chef de l'État donne les grandes orientations.
Non, mais autant le chef de l'État lui a essayé de trouver
le
bon dosage pour atteindre un triple objectif qui a sonné comme un impératif. Et il a laissé au Premier ministre, si vous voulez, les tours de vis et les nouvelles un peu plus hard, un peu plus dures, un peu plus sévères.
Oui.
Et je ne sais pas s'il a convaincu, parce que je trouve que quand même, j'ose pas utiliser le mot, mais sur le plan, c'est un mot qu'on utilise souvent quand on passe à la télévision, est-il charismatique ou pas, j'ai trouvé un peu transparent, et puis surtout, si vous voulez, comme ça, nommer toutes les mauvaises nouvelles.
Oui.
Derrière un discours plus positif, du président de la République qui a essayé, lui, de jouer, de faire appel à l'intelligence, à la participation des Français, j'ai trouvé le Premier ministre sur un devoir extrêmement difficile.
Oui, alors on sent d'ailleurs que le président est cette fois un peu seul en première ligne. Vanessa Schneider, hier, il est d'ailleurs plus qu'à l'habitude rentré dans des détails dont on pourrait dire que ça n'est pas de son niveau. Le Monde rappelle aujourd'hui à quel point Jacques Chirac avait par exemple pu s'appuyer sur Dominique de Villepin lors du refus de la guerre en Irak. François Hollande sur Manuel Valls et Bernard Cazeneuve au moment des attentats. Aujourd'hui, Emmanuel Macron paraît quand même seul.
Oui, alors on peut se demander si ce n'est pas son souhait en nommant...
Jean Castex.
Oui, ben oui, Emmanuel Macron a fait le choix d'un technicien, de quelqu'un qui avait été monsieur des confinements pendant le confinement. Ce n'est pas une personnalité politique charismatique ni puissante qui ne risque pas de lui faire de l'ombre. Donc c'est aussi la volonté d'Emmanuel Macron de ne pas s'entourer de poids lourds et ça lui manque dans des situations de crise. Après, là, on reste dans un partage des rôles qui est finalement assez classique, avec un président qui fixe les grandes orientations et qui garde pour lui les seules bonnes nouvelles qu'il a à donner, si tant est qu'il en a à donner, et puis qui laisse son Premier ministre un peu au charbon dérouler le détail des mesures.
Avec les ministres à ses côtés.
Voilà, le risque, en effet, c'est ce que vous soulignez, c'est que le Premier ministre apparaît d'abord...
Affaibli.
Ils ont quand même l'air tous très fatigués et puis un petit peu perdus. C'est pas très rassurant, en fait, ce spectacle de ministres qui égrènent comme ça des mesures qui n'ont pas réponse à tout, puisqu'il y a encore plein de questions qui sont en suspens, avec des choses qui peuvent apparaître contradictoires.
Alors, c'est la question que j'allais poser à Anne Fulda. Est-ce que, à 24 heures de l'entrée en vigueur de ces couvre-feux, est-ce que les mesures, de votre point de vue, sont claires et bien comprises par les Français ?
Alors, les mesures sont claires, c'est-à-dire qu'elles sont intelligibles. Ce qui l'est moins, c'est leur cohérence et c'est la stratégie d'ensemble du plan qui a été annoncé pour lutter contre cette deuxième vague qui est désormais totalement assumée. Après avoir été nié pendant quelques temps. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème. Même si le président de la République, dont l'intervention demeure quand même celle qui reste enfin qui restera, enfin qui marque plus, parce que il faut dire qu'il a progressé, lui, je trouve, par rapport à ses interventions précédentes sur les mêmes sujets, où c'était assez souvent flou, cafouilleux. Là, c'est vrai qu'on a un discours qui est clair, même s'il n'est pas entré autant dans le détail, c'est pas son travail.
Oui, oui. C'est, enfin, quand même, il nous a dit aérez vos chambres, aérez vos salons,
oui,
lavez-vous bien les mains, gardez les distances de sécurité.
Il a fait de la pédagogie. Oui. Donc, il a fait de la pédagogie, il n'est pas entré dans le détail des mesures.
Oui. Mais vous l'avez trouvé convaincant.
Je l'ai trouvé convaincant dans le détail des mesures, mais pas convaincant dans l'ensemble et dans la stratégie d'ensemble.
Vous trouvez que c'est encore flou ?
Je trouve que c'est encore flou, qu'il y a des incohérences et que les Français, d'ailleurs, le ressentent complètement. On voit bien dans les réactions qu'il y a eu après cette première intervention, les Français voient bien qu'il y a la stratégie d'ensemble semble hésitante.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h42, on est toujours avec le débat des grandes voix et on débriefe les annonces cet après-midi de Jean Castex et de ses ministres. Je voudrais qu'on s'arrête sur les annonces économiques. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, était présent et il est revenu sur les aides aux secteurs affectés, les restaurants notamment et les commerces.
Un plan d'urgence économique a été mis en œuvre, vous le savez, afin de protéger les salariés par le dispositif de chômage partiel, de soutenir la trésorerie des entreprises par le fonds de solidarité, le dispositif des prêts garantis par l'État et les reports et exonérations de cotisations sociales. Au cours des dernières semaines, mon gouvernement a pris des mesures complémentaires pour renforcer ce soutien et, à la demande du président de la République, nous allons encore adapter et renforcer ces dispositifs.
Voilà, on va renforcer ces dispositifs, a dit tout à l'heure Jean Castex. L'État met par exemple 1 milliard supplémentaire sur la table pour soutenir les secteurs en difficulté. Est-ce que, globalement, le compte y est, Emmanuel Dutheil ?
Objectivement, ils ont essayé de répondre de façon assez pragmatique et je trouve que si un des ministres a été bon, c'est Bruno Le Maire pour essayer vraiment d'aller point par point sur les difficultés sans nier le fait que ça ne sera pas suffisant, bien, bien, bien loin de là. On en parlait dès hier soir, c'est cataclysmique bien évidemment pour le secteur par exemple de la restauration. Donc là, on est sur de nouvelles mesures d'urgence qui vont leur permettre d'avoir un tout petit peu d'air dans un moment d'asphyxie générale. Mais il y a encore des points qui sont vraiment en suspens là-dessus. Par exemple, une des questions les plus importantes, c'est comment on paye son loyer. Parce qu'on a beau dire zéro charge et tout le bazar, il n'en reste pas moins que quand vous avez fermé, vous avez par exemple votre loyer à payer. Pour le moment, il n'y a toujours pas d'accord. Alors là, il faut une petite promesse au conditionnel en disant que si on ne trouve pas un accord, on pourrait faire une sorte de crédit d'impôt.
Je pense que pour les bailleurs. Pour les bailleurs.
Mais du côté des restaurateurs, c'est une demande extrêmement forte pour les aider à garder un tout petit peu confiance. Mais si on essaye de regarder ça de façon objective, il y a vraiment des mesures très spécifiques qui viennent quand même en aide aux secteurs les plus en difficulté.
Ce sera l'un des grands enjeux des prochains mois, Charles Villeneuve, évidemment. Est-ce que l'économie tiendra et est-ce que les mesures seront suffisantes pour soutenir les entreprises ? On a entendu hier ici même, vous étiez avec moi, avant même ces annonces, on a entendu la colère et le désespoir des industries du secteur de la restauration et de l'hôtellerie.
Non mais le chemin pour le gouvernement est très étroit. Si vous voulez, comment essayer de stopper l'envol du virus tout en préservant l'économie et le social et en essayant de garder une unité des Français.
Une cohésion nationale, oui, c'est vrai.
C'est en cela que c'est extrêmement difficile. Et c'est pourquoi moi je ne serai pas sévère, notamment sur l'interview, qui est un genre qui lui convient beaucoup mieux que le discours
solennel.
Régalien, solennel, qui devrait générer de la puissance quand vous écoutez les communicants politiques du chef de l'État. Et il a essayé d'être relativement positif en permanence, faisant appel tout le temps à l'unité des Français. Et donc, moi, je pense que c'est le résultat qui compte et on verra s'il a été entendu ou pas.
Parce qu'on évoquait
Je pense qu'avoir une opinion, si vous voulez, trop négative comme ça d'emblée, je rejoindrai plutôt Emmanuel Dutheil en pensant qu'ils ont fait un maximum, y compris avec le ministre de l'économie.
Et ce que je trouve étonnant dans les annonces d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus dures que ce qu'on a pu avoir hier soir. C'est-à-dire pourquoi le président de la République n'a pas dit hier soir que les protocoles sanitaires vont être renforcés dans tous les restaurants de France ? Pourquoi il n'a pas annoncé les mariages hier ? J'ai toujours l'impression que dans leur communication, et notamment leur communication économique en la matière, parce que derrière, là encore, il y a des secteurs énormes, c'est toujours en deux temps. Un premier temps où on se dit, allez, c'est peut-être un poil moins grave, et bing, le lendemain, il y a de nouveaux détails qui non, mais est,
c'est
qui
classique,
arrive,
ça, Emmanuel.
Ouais, Vanessa Schneider. Aujourd'hui, de façon
ouais, Vanessa, la ligne de crête qu'on évoquait au début de ce débat des grandes voix sur la dimension politique, elle l'est également sur la dimension économique, hein, parce que le président il joue aussi 2022 dans les mois qui viennent.
Bah, c'est à la fois comment essayer de sauver un semblant d'économie et en même temps stopper le virus. Donc en effet, c'est une espèce de jeu très compliqué. Il est d'autant plus compliqué qu'on est face à une vraie crise de confiance des Français. Depuis le début, avec cet énorme cafouillage autour des masques qui a été une sorte de péché originel, où les Français tout d'un coup se sont dit, on ne nous dit pas tout, pourquoi on nous dit des choses qui sont contraires au bon sens.
Mais vous avez vu quand même le sondage qui est paru aujourd'hui, hein. Oui. 80% des Français qui sont concernés par ces mesures de couvre-feu, 20 millions de Français au total, disent qu'ils vont le respecter.
Bien sûr, mais de la même façon que les Français ont respecté le confinement. Oui. Il y a eu des exceptions, mais je veux dire, les Français ont été quand même extrêmement disciplinés sur le confinement, sur après le port du masque, lorsqu'il a été décrété. Quand on se promène dans les rues, alors il y a toujours des exceptions, certains quartiers, mais les Français respectent les consignes. La crise de confiance, elle ne se situe pas là, elle se situe dans le doute qui est porté sur ce gouvernement et qui est incarné par Emmanuel Macron,
sur sa
capacité. Voilà. Et ce qui est difficile, comme ça a été dit précédemment, c'est que le fait d'annoncer comme ça des mesures un peu dans le désordre, et puis à chaque fois une nouvelle mauvaise nouvelle, c'est qu'on a l'impression de ne pas en sortir et qu'on n'en sortira jamais, que c'est quelque chose de sans fin. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable pour le moral et des professions les plus touchées, parce que là, en effet, c'est les mêmes qui sont les plus touchées, et pour le moral des Français de façon plus générale.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, on poursuit le débat des grandes voix avec ce soir le débrief des annonces et des précisions qui ont été apportées aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex après les annonces hier d'Emmanuel Macron. On évoquait ce sentiment d'adhésion de la part des Français à ces mesures, la dimension politique, etc. également. Mais moi, je voudrais revenir aussi sur le sentiment d'injustice de la part des Français, parce qu'il y a cette question de encore une fois, d'acceptabilité de la part des Français des mesures. Sentiment d'injustice entre les métropoles qui sont concernées et les autres Français, entre ceux qui vont pouvoir travailler demain en télétravail et puis les autres, et les Français aisés et les plus modestes. Jean Castex a par ailleurs précisé la mesure sur la hausse, la revalorisation de 100 euros par foyer, 150 euros par foyer du RSA. J'ai fait le calcul, Emmanuel Duteil, ça fait 1,5 milliard à peu près. Au regard des 100 milliards du plan de relance, ça paraît relativement peu. Est-ce que ça peut être un élément qui soit reproché au gouvernement? Alors, il y a une question sur la fiscalité aujourd'hui.
Je ne suis pas sûr que cette mesure en particulier leur soit reprochée. Ce qui va leur être reproché, c'est de ne pas faire plus pour des populations qui ne sont pas touchées. Par exemple, pour les jeunes qui ne sont pas au RSA et eux qui, par définition, ne vont pas avoir d'aide en ce moment. Et ils sont très touchés pour ceux qui sont en plus, par exemple, à la fac ou ce genre de choses, qui n'ont pas cours en présentiel. C'est hyper compliqué d'avoir ces études en ce moment. Et on sait très bien, toutes les études le montrent, que ce sont les populations les plus faibles d'un point de vue économique qui sont les plus touchées par la maladie. Donc je pense qu'on va leur reprocher de ne pas en avoir fait assez pour un grand nombre de gens qui sont malheureusement pas assez aisés et qui sont fortement touchés par la maladie.
Anne Fulda, tout à l'heure, Vanessa Schneider évoquait le risque de dislocation de l'unité de la nation. Est-ce que cet élément-là peut en être l'un des symptômes?
C'est sûr qu'on sent pas effectivement de communion, enfin si c'est le terme adéquat, derrière un discours, en tout cas d'adhésion totale, même si, malgré tout, le sondage là qui vient d'être fait sur France.
Pourtant, le président a dit ceci hier, on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres, nous sommes une nation de citoyens solidaires.
Oui,
alors, ce sont des mots et des incantations, je ne sais pas si c'est le cas dans la réalité.
Oui, il y a eu la solidarité au début, lorsqu'il y a eu le confinement, lorsqu'on applaudissait les infirmières, etc. Mais finalement, après, on voit que les intérêts particuliers reprennent quand même leurs droits, même si, ce qu'on disait tout à l'heure, les Français sont disciplinés, les Français en général adoptent les règles, enfin ceux qui sont dans les villes qui sont touchées,
qui sont d'accord.
Alors voilà, c'est parce qu'on voit là le sondage qui vient de sortir, 64% des Français qui sont favorables au couvre-feu, mais la plupart, la majorité, 53% des Français pense que le président de la République ne dit pas la vérité. Donc il y a vraiment une défiance incroyable vis-à-vis du président de la République est en cause, effectivement, la stratégie qui a été adoptée jusqu'à maintenant, on l'a dit, sur les masques, la pénurie de masques, mais aussi l'échec de l'application Stop Covid, qui va être remplacée par une autre, des tests qui vont être remplacés par d'autres, tout le cafouillage qu'il y a eu, les queues dans les laboratoires, le manque de personnel. Il y a tout ça aussi qui vient derrière dans ce qu'on reproche au gouvernement.
Oui. Charles.
Non, mais moi, je pense que de l'aveu même du gouvernement, la situation échappe au rationnel. Et à partir de là, si vous voulez, prendre au pied de la lettre les sondages, moi, je suis beaucoup plus sceptique. 63%, c'est ça, ont trouvé finalement positif l'interview du président de la République, les décisions du couvre-feu, etc. Mais c'est normal qu'ils ressentent de toute façon de l'injustice et notamment ce qu'a dit Vanessa Schneider tout à l'heure en disant que finalement ils sont tous anxieux et ils ne croient pas tellement finalement à ce qu'on leur annonce.
Oui,
c'est tout à fait normal parce que vous avez les salles de sport par exemple. Depuis que les salles de sport ont été fermées, eh bien, on a décelé, on a fait le compte de ceux qui étaient contaminés depuis 6 mois, 909 contaminés seulement. Alors, il est bien évident que tous ceux qui travaillent dans les salles de sport trouvent ça complètement injuste. Et de la même manière sur la restauration. La restauration et toutes les professions qui
s'ajoutent. Ça, c'est tout le problème depuis le départ. On voit des bus qui sont...
Et donc, partant de là, évidemment...
Il n'y a aucun cluster identifié dans les transports. C'est quand même très important à signer.
1%. Mais ce qui veut dire
cluster identifié, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on contracte la maladie dans les transports. Oui. Ce dont on est certain, c'est qu'on n'a pas été capable de définir que dans un métro en particulier ou dans un bus en particulier, il y a eu des clusters.
Vanessa.
Oui, ça a été d'ailleurs expliqué lors de la conférence de presse, parce que dans les transports, il y a beaucoup de va-et-vient, d'entrée, de sortie, et que les gens restent moins longtemps en contact. Au même moment, au même endroit, et malgré la promiscuité avec les masques, ça réduit le nombre de contacts. Mais j'ajouterais ce qui a été dit, le secteur de la culture, c'est absolument dramatique ce qui va se passer pour le secteur de la culture, parce que c'est pas simplement les gens qui sont sur scène, mais c'est des tonnes de professions qu'il y a derrière, qui ont déjà énormément souffert du confinement, qui n'ont pas pu retravailler l'été, les festivals ont été annulés. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment de l'incompréhension. Moi, je suis allée au cinéma. Au cinéma, les gens portent des masques, regardent en permanence dans la même direction. Il y a des sièges qui sont prévus entre les gens qui ne se connaissent pas. Les règles sont extrêmement bien respectées dans les salles de théâtre aussi.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le sentiment d'injustice.
Et là, c'est très, très difficile à comprendre pour des secteurs entiers de l'économie d'avoir l'impression d'être pénalisés alors qu'ils ont été assez soucieux, respectueux des règles et qu'ils les ont appliquées avec sérieux.
Bien, et on continuera d'en parler dans quelques instants avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui sera à mes côtés pour le grand entretien du Club des idées. Restez avec nous, on se retrouve à 19h avec le journal également. À tout de suite.